Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Mistral. On a le plaisir de retrouver tout de suite Dominique pour un nouveau numéro de Voyage au fil des mots. Bonjour Dominique.
Bonjour Agathe.
Aujourd'hui, on va effectuer un long et beau voyage en mer, je crois. Ça va être le thème de cette émission. Mais avant, on va aborder les étoiles. Et c'est quand même en lien étroit avec la mer, quelque part.
Oui, bien sûr, parce que qui se sert le plus souvent des étoiles, hein ? Eh ben souvent, ce sont les marins. Ça sera donc notre transition pour raconter, effectivement, après, des histoires fantastiques de nos chers marins. Voilà. On va débuter effectivement avec une chanson, un texte de chanson de Michel Delpech. Il faut regarder les étoiles. Le soleil, ça ne suffit pas forcément à celui qui veut rêver malgré le temps. Le soleil, c'est tout petit finalement, c'est une étoile au firmament parmi tant d'autres, évidemment. Il faut regarder les étoiles tour à tour, ce sont les étoiles pour troubadours. Il faut accrocher des étoiles au ciel de pluie qui brille un peu plus fort tous les jours. Trop gris. Il faut regarder les étoiles tout là-haut, la lune et le soleil de Pierrot. Il faut accrocher des étoiles au ciel de lit pour que l'amour garde un peu de poésie. T'es la vie qui va trop vite maintenant. Si tu veux rester poète plus longtemps, il suffit de t'arrêter quelques instants, de lever les yeux doucement et de regarder simplement. Il faut regarder les étoiles tour à tour. Ce sont des soleils pour troubadours, il faut accrocher des étoiles au ciel de pluie pour que brillent un peu plus fort les jours trop gris. Il faut regarder les étoiles tout là-haut, la lune et le soleil de Pierrot. Il faut accrocher des étoiles au ciel de lit pour que l'amour garde un peu de poésie.
Maintenant, Dominique, il va s'agir de vaisseaux fantômes.
Eh oui, c'est vrai que tous les marins ont leurs propres histoires. Il y en a de nombreux sur les vaisseaux fantômes qui existent. Alors bon, à ne pas toutes les dire, j'en ai choisi deux avec des thèmes différents l'un de l'autre. Le premier, effectivement, s'appelle le vaisseau fantôme, mais le second, c'est le Hollandais volant. Là, c'est une version avec une histoire de diable en victime, donc vous allez voir. Donc on attaque avec le vaisseau fantôme. En l'an de grâce 1647, dans ce nouveau monde appelé Amérique, un grand vaisseau quittait le port de New Haven. C'était un bateau à fière allure, majestueux, avec une cargaison de sel qui comblait les hommes de cette époque. Balles de coton, tabac, maïs, poivre et autres épices. La population du port était venue saluer ce géant des mers, flambant neuf, qui partait en Europe vendre sa marchandise. Mais au lieu des hurlements de liesse qui accompagnaient d'ordinaire un tel événement, des murmures couraient parmi la foule. On dit qu'il a été mal construit. Ouais, j'ai entendu l'autre jour son capitaine en parler comme d'une vraie tombe flottante. Baliverne, le seul cercueil du marin, c'est le fond de la mer. N'empêche, avez-vous vu les beaux mines des hommes d'équipage quand ils se sont embarqués? Des faces de condamnés à mort. Quand le vaisseau quitta le port dans ce matin d'hiver, un silence glacé s'abattit sur les quais. Tout le monde avait le silence et le sentiment qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Certains étaient même persuadés qu'on ne reverrait jamais le navire. À partir de ce jour, il ne passa pas un seul bateau dans le port de New Haven sans qu'on demandât à son capitaine des nouvelles du fameux vaisseau. Mais nul ne savait ce qu'il était devenu, et peu à peu, l'idée de sa disparition s'installa dans les esprits. Par un bel après-midi de juin, le ciel s'obscurcit subitement. Un terrible orage éclata au-dessus de la ville et la noya sous un déluge d'eau. Lorsque les derniers nuages noirs disparurent, on assista alors au plus extraordinaire spectacle qu'on put imaginer. Les gens de New Haven vinrent s'avancer, venus du large, un grand navire, toute voile dehors, pavillon au vent. Il fonçait droit vers l'entrée du port. Autour de lui, comme un halo bizarre, une étrange lumière scintillait, comme celle d'un réverbère au milieu du brouillard. Chose curieuse, il fendait la mer d'une proue conquérante. Si ses voiles étaient gonflées de brise, personne cependant ne sentait le moindre souffle de vent. Plus mystérieux encore, le pont était désert, absolument désert. Pas le moindre homme d'équipage pour préparer l'accostage. Sur le quai, seuls les enfants applaudissaient à tout rompre le nouvel arrivant, chantant des airs de bienvenue comme à l'ordinaire. Les hommes et les femmes, eux, étaient pétrifiés par la scène, et leur stupeur fut à son comble lorsqu'ils virent, grimpés à la proue, la silhouette sombre d'un homme brandissant un sabre vers le large, seul être vivant à bord, semblait-il. Le navire entra dans le port, sans ralentir le moins du monde, toujours poussé par un souffle invisible. Soudain, une brusque et formidable rafale de vent déchira d'un coup les voiles et secoua le bâton de fond en comble. Les mâts se fracassèrent comme des arbres morts. En un instant, le vaisseau ne fut plus qu'une carcasse démantelée, glissant sur l'eau calme, si calme, du port. L'énorme et misérable coque oscilla encore quelque temps dans le port, avant de virer de bord et foncer de nouveau vers le large et d'y disparaître, enfin dévoré par un brusque brouillard. Sur les quais, personne n'osait bouger ni parler. Ce qu'on venait de voir dépassait l'imagination. Pourtant, chacun y songeait. Ce vaisseau qui venait d'être englouti par une brume venait de nulle part. C'était bien celui qui était parti au cœur de l'hiver, celui dont on avait perdu la trace. Et l'épouvantable scène qu'il venait de voir, celle de son naufrage, peut-être à des centaines de milles de New Haven, était-ce un mirage, une apparition infernale, un signe de l'au-delà? Nul n'aurait parié sur la réponse. Et chacun remonta chez lui, épouvanté par l'incroyable vision. Certains ont parlé de vaisseaux fantômes, comme si du plus profond des flots où il s'était englouti, le navire fracassé surgissait pour hanter le monde des vivants. De loin en loin, des gens affirment l'avoir revu, glissant sur la mer, voile déchirée, le pont toujours désert, avec, à la proue, la noire silhouette du capitaine brandissant son sabre vers le large, là où le vaisseau fantôme semble condamné à errer jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on dit encore aujourd'hui dans le port de New Haven, et les marins ne sont pas des gens à raconter n'importe quoi, croyez-moi. Donc on passe à la suivante, le Hollandais Holland.
Nom d'un phoque, espèce de sac à gnoule, tu es encore sous.
Le capitaine Wick se mit à jouer le vieux Rutzvol comme un prunier. Mais l'autre continuait à hurler.
Je l'ai vu, capitaine, je vous dis que je l'ai vu, aussi vrai que les harengs des nageoires.
Le capitaine hissa le marin sur le parapet du pont et lui montrant la mer d'huile.
Montre-le, soifoire, mais montre-le-nous donc.
Rutzvol leva un doigt tremblant et bafouilla.
« On ne voit rien, d'accord, mais il va revenir, et moi je vous aurai prévenu, capitaine !»
Jacob, le mousse, était à l'affût. Il posa sa main sur l'épaule de Wick.
« Qui va revenir, capitaine ?»
L'homme haussa les épaules.
« Le fantôme favori de ce vieil ivrogne, mon garçon, le Hollandais volant !»«
Le Hollandais volant ? Par la Sainte-Barbe, les ailes pousseraient-elles aux hommes à présent ?» Jacob ricana. Mais Wick le fit taire d'un maître soufflé.
Ne plaisante pas avec sa gamin. C'est assez avec les jérémiades de ce pochard.
Et il fit demi-tour, l'air plus furibond que jamais.
Diable, Jacob était curieux.
Il fonça sur Rutzvol, qui cuvait son vin sur un tas de cordages.
Raconte, Rude, c'est quoi ce Hollandais planant?
Volant, fiston, volant.
Le vieux marin jeta un œil autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls.
C'est une histoire terrible, Jacob, terrible, qui remonte à bien des années.
Oui, oui, bien des années.
Il but une rasade de rhum. Pour bien parler, il ne faut pas avoir le gosier sec, n'est-ce pas?
Comment s'appelait-il, ce fichu capitaine?
Oh, je ne m'en souviens pas. Mais c'était un homme épouvantable, le genre à ne croire ni Dieu, ni diable. Maître à bord et moi seul, il disait toujours. Les hommes d'équipage le craignaient comme la peste.
Rutzvol baissa la voix. À côté de lui,
oui, tu es un ange, petit.
Puis, plus haut.
Donc, un soir, la tempête se leva. Une grosse, fiston, une terrible, une qui fait hurler les poulies, qui déchire les voiles avec un vent à décorner les vaches. Mais le capitaine s'en moquait. Il se contentait de maugréer dans sa barbe que son bateau n'était pas une coque de noix et qu'une aussi misérable bourrasque ne lui faisait pas peur. L'équipage était affolé, car le voilier prenait haut de toutes parts.
« Rentrons, capitaine, rentrons » gémissait-il.
Mais l'autre y est plus belle. Il levait le poing vers le ciel noir en le maudissant. Il se mit même à boire de la bière en chantant d'horribles chansons et à cracher contre le vent, ce qui est la pire des choses pour un ramin, comme tu le sais.
Jacob, satané bonhomme, plus la mer se déchaînait, plus il défiait les éléments.
appelant la foudre, insultant les vagues, les nuages, la pluie. Un fou, mon garçon, un fou. Il venait de jeter à la mer même un de ses matelots qui tentait d'amener le phoque quand, venu de nulle part, surgit sur le pont du bateau un individu ricanant, hirsute, échevelé.
On m'avait parlé de toi, capitaine, mais ce que je viens de voir dépasse mes espérances. Tu fais le mal comme on respire.
De quoi te mêles-tu, toi ? Vociféra le capitaine, nullement troublé d'ailleurs, qui, brandissant son fouet, cingla l'apparition d'un coup terrible.
L'autre ne broncha pas et avança même d'un pas, faisant voler autour de lui quelques flammèches étranges.
« Sois mon serviteur, bonhomme, tu ne le regretteras pas. »
Alors le capitaine déchargea son pistolet sur l'individu en hurlant. « Maître à bord et moi seul, je ne servirai personne, m'entends-tu, crapule ? Personne, même le diable !»
Mais les balles traversèrent l'individu comme s'il n'était qu'une ombre. L'instant d'après, il grimpait dans les haubans et hurlait.
« Tu finiras par m'appartenir, misérable vieillard. Mais en attendant et pour des siècles à venir, je te condamne à errer sur les mers sans jamais regagner la terre.
»« La belle affaire, puisque je n'y tiens pas, maudit barbichu !» répliqua le capitaine.
« Tu aimes boire ?»« Le fiel remplira chacun de tes verres. Tu chiqueras des braises, tu mangeras du plomb fondu. Tu ne pourras plus fermer l'œil, ni la nuit, ni le jour. Tu porteras malheur à tous les bateaux que tu rencontreras. » Ton navire volera au-dessus des flots comme un oiseau malfaisant, et tu n'auras pour compagnon qu'un mousse cornu aux pieds fourchus. »
Puis il disparut dans un tourbillon terrible. Le capitaine éclata d'un rire tonitruant. Cet homme-là était décidément tout aussi fou que lui, ventre Dieu. Pour un peu, il lui eurent bien offert une bière. Mais puisqu'il avait pris la poudre d'escampette...
La tempête s'apaisa aussi brusquement qu'elle était venue. Le capitaine aussi, d'ailleurs, qui donna l'ordre à l'équipage de monter dans les haubans réparer les voiles.
Mais quel équipage ? Quelle voile ? Autour de lui, le pont était désert, et sur les mâtures, aussi blanches que du givre, les voiles avaient disparu.
« Hola, matelot ! Êtes-vous tous entassés dans les cales comme des rats par Lucifer ?»«
Tu m'appelles, capitaine » entendit-il.
Derrière lui, il y avait le mousse. Des cornes lui avaient poussé sur la tête. Son visage était repoussant, ses pieds fourchus. Tout là-haut, à la hauteur de la hune, on entendit un ricanement aigu et une voix qui hurlait.
« Quand tu n'en auras assez de naviguer sans trêve sur les mers du monde et de porter le malheur partout, tu m'appelleras capitaine. Je serai toujours là où tu seras, et tu seras le bienvenu au royaume de Satan. »
Jacob, le mousse, frissonna.
« Satan ? Ruth, c'était Satan ? » ?»«
Tout juste, mon garçon. Et depuis ce jour maudit, le capitaine erre sur les océans, sans voilure, sans équipage, voltigeant au-dessus des flots comme une ombre terrible. On l'appelle le Hollandais volant. Il porte la mort au bateau qu'il rencontre, petit. La mort ou la folie.
Ruth Svold se tut. Il était livide. De grosses gouttes perlaient sur son front.
Je l'ai vu tout à l'heure, mon garçon, de mes yeux vus. Et crois-moi, il va revenir, je le sais. Il revient toujours.
Tu es fou, allié, mon vieux, gloussa Jacob. « Un mousse cornu, aux pieds fourchus ? Oh, si tu penses que je vais croire à tes stupides sornettes !»
Quelques jours plus tard, le trois-mâts du capitaine Wick vint s'échouer sur une côte au nord de Terre-Neuve. Il n'y avait plus personne à bord, à part un petit mousse au regard vide qu'on retrouva recroquevillé dans une cale, grelottant, à demi-fou, et qui répétait sans cesse les mêmes mots, des mots bien étranges, qui ressemblaient à une comptine d'enfant, « Cornu !» Cornu, aux pieds fourchus, cornu, aux pieds fourchus. Une comptine bien étrange en vérité.
Un peu dans le thème du fantastique, et là il s'agit d'un marin qui souhaite se marier, mais pour cela, bien sûr, il faut qu'il s'enrichisse.
Voilà, donc c'est son aventure qu'on va expliquer maintenant. La cupidité est partout et celui-ci avait vraiment besoin de richesse, donc était prêt à affronter beaucoup de choses pour pouvoir se marier. Ah, malin, malin et demi.
« Oyez, fier matelot, comment l'amour suffit à sauver du malin le capitaine Jean, qui crut bon d'amasser de l'or et de l'argent
pour mériter la main de la belle Marie. De Saint-Malo à Lorient, en passant par Brest, tous les pêcheurs bretons savent par cœur cette chansonnette. Qui ne la connaît pas nous servira d'appât, s'amuse-t-il à dire. Or, pour ne pas finir au bout d'un hameçon, apprenons vite l'histoire du capitaine Jean. Lorsqu'il est né, son père a dit « Il sera pêcheur !» Comment en aurait-il pu être autrement? C'est le lot des fils de la Bretagne. Jean fait ses premiers pas sur le bateau paternel. Il grandit parmi les sardines, les morues et les anguilles. Enfant, il étonne déjà par sa vaillance et son courage. Aussi, dès qu'il est adolescent, son père l'envoie-t-il à Brest où un armateur l'engage comme mousse. « Là-bas, il gagnera sa vie, espère-t-on chez lui. » Jean devint alors un vrai marin, un de ceux que la mer rend aussi sec qu'un coup de trique, toujours prêt à se tuer à la tâche, débordant d'énergie. Cela lui vaut la confiance de l'armateur qui le nomme capitaine. Et personne ne s'en plaint, sauf quelques loups de mer jaloux de sa jeune expérience. Après l'Atlantique, Jean connaît d'autres horizons. L'océan Indien, la mer de Chine, le Pacifique, dans les cales de son bateau, du thé, des épices et du riz à foison. Navigateur hors pair, il pense avoir tout affronté, des tornades bretonnes au typhon du Japon. Mais il se trompe. Pour la première fois qu'il voit Marie, la fille de l'armateur, Jean croit qu'une ancre lui est tombée sur la tête. Oh, vous le verriez, lui, le capitaine au long cours, celui qui lit le temps dans les nuages et dont la voix tonne sur le pont des navires. Dès que Marie pose un regard sur lui, il est incapable de trouver le nord sur sa boussole. Oh, comprenez-le, ce pauvre garçon. La chevelure rousse de la jeune fille lui fait penser à un soleil couchant. Jean ne sait plus là où il est. Marie, elle, le connaît fort bien. Son père n'arrête pas de vanter les mérites de son meilleur capitaine. Ce n'est pas par hasard si elle se promène de temps en temps sur les quais. Aussi, les deux jeunes gens ne tardent-ils pas à s'avouer leur amour. Mais ce n'est pas assez. Jean en veut plus et quand il désire quelque chose, il l'obtient tonnerre de tonnerre. Il demande à l'armateur la main de sa fille. L'homme qui est sage lui répond « Tu es brave et généreux. Oh, je suis sûr que tu ferais un époux idéal. Mais tu sais comme moi que l'océan est sans pitié. Or, je ne voudrais pas qu'un jour Marie attende vainement ton retour. Je ne t'accorderai sa main que lorsque tu seras assez riche pour devenir armateur et ne plus avoir à prendre le large. Jean, je t'aime comme un fils, mais comprends-moi. Si Marie te perdait, je la perdrais aussi. » L'armateur a bien parlé, mais Jean se désespère. Oh, quand nous marierons-nous? Je suis encore trop pauvre. Alors que faire? Attendre que vienne la fortune? Jamais de la vie, ce sera trop long. Et l'impatience tenaille le jeune capitaine. À cœur vaillant, rien n'est possible, se répète-t-il sans cesse. Le dicton lui donnera raison. Lors de ses voyages dans les mers du Sud, on lui a parlé de l'île d'Or, quelque part sur l'océan Indien. Ses rivages, ses cocotiers, ses falaises, absolument tout est en or. Bon nombre de navigateurs en quête de trésors sont partis à sa découverte, mais en vain. Certains ne sont jamais revenus même. « Cela vogue sur les feux de l'enfer, » s'exclament les vieux pêcheurs. « Oui, car une rumeur circule. L'île appartiendrait au diable en personne. Légende ou triste réalité? Qu'importe. Jean est prêt à tout, même à tenter le diable. Alors, c'est décidé. Demain, il lève l'ancre. » Il ne souffle mot de son projet à personne, hormis à ses marins, bien sûr. Quand il leur apprend dans quelle aventure il les embarque, aucun ne bronche. Au contraire, si l'île existe vraiment, c'est l'assurance d'une vie heureuse jusqu'à la fin de leur jour. C'est du moins ce qu'ils croient. Et le démon dans tout ça? Baliverne, lance un marin. Légende, s'écrie un autre. Ou ces Bretons sont courageux, ou bien ils sont fous. Sans attendre, on remplit les cales de vivres, car le voyage sera long. Le lendemain, à l'aube, le navire largue les amarres et pointe vers le sud. À bord, l'or anime les esprits. Les rêves les plus exubérants vont bon train. Le timonier se payera une flotte de caravelles. Le mou s'offrira une île à ses parents. Le cuisinier veut même s'acheter le port de Brest. Pendant ce temps, le bateau contourne l'Afrique. Au bout de 6 mois, il passe le cap de Bonne-Espérance et s'engouffre dans l'océan Indien. Jean et ses hommes ignorent encore quel interminable périple commence. Ils traversent l'océan jusqu'à la lointaine Australie. Or, pas une seule fois l'île n'est en vue. Qu'à cela ne tienne, ils mettent le cap sur l'Inde. Hélas, les recherches restent vaines. Alors ils descendent le plus loin possible vers le sud. Cette fois-ci, ce sera la bonne, pense-t-il. Mais point d'or à l'horizon. Si bien qu'après des mois de traversée, le moral est au plus bas. Les vivres sont presque épuisés. Les rêves eux-mêmes finissent par se briser. Voilà près d'un an que les compagnons de Jean ont laissé femme et enfants. Mais pourquoi ? Pour rien. Leur capitaine aussi a le cœur lourd. S'il échoue, c'est la honte, c'est la faim. L'armateur ne lui pardonnera pas d'être parti à l'aventure au péril de son équipage. Jean pourra dire adieu à Marie, et il en épousera une autre. Ce sera épouvantable. Cette pensée le met hors de lui. Ah ça, jamais, jamais, hurle-t-il. Je trouverai cet or, dussé-je vendre mon âme au diable. À peine a-t-il prononcé ces mots que l'horizon se couvre de nuages noirs. La mer s'agite inexplicablement. Des bourrasques gonflent les voiles. Les marins s'affairent à leur poste. « Encore une de ces satanées tempêtes !» bougonne Jean. Il ne croit pas si bien dire. Soudain, sur le pont, un cri. « Regardez ! Regardez, l'île d'or !»« L'île d'or ?» Les regards se tournent à tribord. Stupeur, elle est là. Étincelante, splendide, plus belle encore que chacun l'a imaginée. Sur le navire, l'émotion est à son comble, Jean lâche la barre. « Nous avons réussi !» s'exclame-t-il. « Nous avons réussi !» Quelle est cette voix rauque qui résonne à ses oreilles ? Abasourdi, Jean se retourne. Devant lui, il y a un homme, hideux au possible. Il a le visage pâle comme un ciel d'hiver, les joues creuses et deux yeux rouges qui lancent des étincelles brûlantes. Une longue cape noire enveloppe son corps maigre et immense. « Qui êtes-vous ? « Moi ? Mais le diable, voyons !» Et au jeune homme éberlué, le démon raconte. « Seul celui qui se damne découvre mon or. Toi seul as su le trouver. Je te l'offre, mais en échange de ton âme, plus personne ne peut rien pour toi, même tes hommes. Vois comme ils sont heureux depuis le temps qu'ils rêvent de l'île. Allons, donne l'ordre de jeter l'ancre et laisse-les faire leur besogne. » Mais les marins n'ont-ils pas aperçu le personnage sinistre parmi eux ? Non, non. Car seul celui qui prononce son nom, seul celui qui vend son âme au diable peut apercevoir le malin. Jean ne dit rien. Le démon l'entraîne dans sa cabine. Il lui tend une feuille. « Tiens, le contrat sacré, signe-le de ton sang et tu m'appartiendras. » Le capitaine gagne du temps. « À quoi servira notre or si aucun de mes hommes ne peut en profiter ? C'est vrai. » « Si vous m'emportez avec vous, qui mènera le bateau à bon port ? Je signerai le contrat une fois arrivé à Brest. »« Soit, conclut le diable, tu me trouveras sur l'île sous l'aspect d'un naufragé et tu me feras monter à bord. Ainsi, tu ne pourras pas m'échapper. » À ces mots, il disparaît dans un nuage de fumée. Jean est pris au piège. Il ne peut plus reculer. Les mains s'arment de pelles et de pioches et partent à l'assaut des rivages précieux. Comme prévu, le diable les attend, mais nul ne s'intéresse à lui. Tout naufragé qu'il est. Jusqu'au coucher du soleil, on casse, ramasse et charge l'or. Une poussière dorée recouvre les fronts en sueur. Le soir, l'équipage reprend sa route vers la Bretagne. Aucun ne s'aperçoit que l'île disparaît comme par enchantement. Les marins s'endorment, exténués, mais heureux. Le voyage du retour s'annonce plus court que prévu car une brise favorable souffle en permanence. Une escale en Afrique permet le ravitaillement. Tout se passe dans la bonne humeur. Le nouveau passager recueilli sur l'île éveille la curiosité de certains. « Personne n'a revu le naufragé depuis notre départ. Il est cloîtré dans la cabine du capitaine. Vive seul sur une île, ça vous donne un homme fou !» Et chacun éclate de rire. S'il savait pourtant, s'il savait. Jean reste muet comme une carpe. À chaque mille parcouru vers la mort qu'il avance. Mais son amour pour Marie est tel qu'il est persuadé de réussir. Il navigue pendant 3 mois. Et enfin, la vigie s'écrie. Terre ! Terre ! Le retour des marins fait un grand bruit dans le port de Brest. Une fois le bateau amarré, l'armateur qui a couru sur le quai monte sur le pont avec sa fille. « Où diable êtes-vous parti ? » s'égosille-t-il. Les hommes s'empressent autour de lui. « Nous l'avons trouvé ! » cria l'un. « Il y en a plein les cales ! » lance l'autre. « Mais de quoi parlez-vous, bon sang ? » s'exaspère l'armateur. Alors on le conduit au fond du navire. La vue de tant d'or lui brûle les yeux. « Où est votre capitaine ? » demande-t-il. Marie le cherche déjà. Elle court partout sur le bateau, puis elle se précipite vers la cabine. Elle ouvre la porte. « Jean !» Elle se jette dans les bras de son bien-aimé. Mais dans sa précipitation,
Elle ne remarque pas le naufragé qui scande de sa voix terrifiante. « Te voilà chez toi, capitaine, alors signe !»«
Qui est cet homme ?» s'inquiète Marie.
« Jean, réponds-moi !»
Hélas, le malheureux est condamné. Ses yeux sont rivés sur la feuille que lui tend l'individu.
Est-ce un miracle de l'amour ? Peut-être. Mais la jeune fille a une idée de génie. Elle s'adresse au naufragé.
« Vous avez emprunté ce navire, n'est-ce pas, monsieur ?»«
Oui. » « Dans ce cas, il vous faut payer le prix du transport. Mon père serait furieux d'apprendre qu'un passager clandestin est à bord de son bateau. »«
Quel est le prix ?» s'énerve le diable. « Dites ce que vous voulez et n'en parlons plus !»
Marie lui arrache la feuille de ses mains et dit « Oh, ce papier suffira !» et elle le déchire en mille morceaux.
« Insolente !» hurle le marin. « Tu m'as berné comme un diablotin, mais je saurai me venger. Gare à toi, capitaine, si tu reprends la mer !»
Un éclair fabuleux illumine la cabine. L'infortuné démon s'est éclipsé.
Grâce à son or, Jean devint un armateur connu dans tous les ports bretons. Mais surtout, il épousa la belle Marie et jamais plus il ne remit les pieds sur un navire.
Le diable, ce nigo, s'en mord encore les griffes.
Dominique, là le danger ne vient pas du diable, on le sait, la mer peut être dangereuse. Et dans les histoires qui vont suivre, on va voir comment les hommes vont essayer de se débrouiller face au danger de la mer.
Ouais. De toute façon, comment on peut analyser une situation, quelle est la réactivité justement des hommes, comment on peut gérer justement un équipage lorsqu'il arrive des choses plus ou moins agréables. Et là justement, le bateau va s'échouer. Ça s'appelle l'île aux quatre vents. Donc la seconde sera effectivement aussi ce que la mer peut provoquer sur l'esprit des marins. Le deuxième s'appellera le capitaine fou. Donc tu vois encore deux histoires en préparation où franchement je pense que c'est un métier qui est difficile, qui a été difficile tous les temps, parce que effectivement il y a des fois faut réfléchir. On a eu effectivement au départ des histoires qui sont des histoires fantastiques avec des diables, avec des choses, mais dans ces deux histoires c'est quand la mer est dangereuse, la mer est dangereuse, et quand on s'échoue, là c'est tourné après effectivement un peu en compte, mais on peut penser effectivement à ces marins qui vivent ça, et franchement, quel courage. Donc effectivement, on va commencer par l'île aux quatre vents. Alors, selon la critique de Tsvetan Todorov, le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, tu vois, face à un événement en apparence surnaturel. Donc, on va découvrir effectivement comment, là, on gère la situation. Quel est le marin qui n'a jamais entendu parler de l'île aux quatre vents ? Oui, vous savez, celle qui fit couler beaucoup d'encre. Vue du ciel, cette île ressemblait à toutes les autres, un morceau de terre avec de l'eau autour. Oh, rien de bien particulier, si ce n'est qu'elle avait la forme d'un anneau posé là, au beau milieu de l'Atlantique. La mer y avait creusé une étroite brèche. Au centre, une lagune s'était formée. Comment expliquer alors que les navires évitaient toujours de longer ses côtes ? Les capitaines, aussi expérimentés soient-ils, tremblaient comme des mousses dès qu'on parlait de l'île. En fait, une mystérieuse menace hantait les ports et les esprits. N'approchez jamais de l'île, malheureux, ou les forces infernales vous emporteront à jamais.
Alors, pensez donc, si la légende effrayait de pareils loups de mer, l'île garderait son secret encore longtemps.
Elle le garda, jusqu'au jour où un capitaine de Tanger, plus téméraire que superstitieux, osa s'aventurer dans ces parages.
Mal lui en prit. L'équipage fut surpris par des vents déchaînés. Le timonier s'écria « Capitaine, faisons demi-tour! Nous allons nous écraser sur les rochers !»
Trop tard. Les courants s'emparèrent du bateau qui fut ballotté en tous sens. La mer se mit à écumer et à se soulever si dangereusement que le vaisseau faillit chavirer. Une vague, puis deux, puis trois l'entraînèrent vers les rivages escarpés de l'île. Cette fois, c'était fini.
Fini, croyez-vous ?
Eh bien non. Le vaisseau fut sauvé par les courants qui s'engouffraient dans la brèche creusée dans les rochers. La bourrasque qui projeta hommes et navires, sans une seule égratignure. Le bateau termina sa dérive folle à l'intérieur de l'île dans la lagune. Les marins étaient sains et saufs. Quel miracle! Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. De tous les côtés, dans le désordre le plus complet, des caravelles, des galions, des galères se tenaient d'immobiles. Tandis que, dehors, la tempête faisait rage, la mer, ici, était calme. Pas un craquement de mât, pas un cri de mouette, rien. Ce repos inquiéta le capitaine. « Ohé, matelot !» Son appel resta sans réponse. « C'est étrange, dit-il. Ces bateaux, en si bon état, sans équipage !» Il décida de les visiter. Quel spectacle terrible s'offrit à leurs yeux. À leur bord, toujours la même désolation. Des ossements humains, blanchis par le soleil, jonchaient les ponts. Le capitaine comprit. Jadis, les vents avaient projeté ces navires à l'intérieur de l'anneau des rochers. Une fois dans la lagune, ils s'étaient retrouvés prisonniers, les courants réduisant à néant leur tentative de sortie. Et aujourd'hui, c'était à leur tour d'être pris au piège. Ainsi s'éclairait le mystère de l'île aux quatre vents. Forces infernales, malédictions, que nenni. La nature expliquait tout. Le capitaine, qui était loin d'être fou, jugea la chose gravissime. « Quand le cric me croque, si nous nous en sortons !» Il garda son sang-froid et prit des décisions. « Pour commencer, nous réduisons de moitié nos rations quotidiennes de vivres. » Tenir, voilà ce qui importait pour le moment. Les jours passèrent. Le désespoir gagna les marins. Leur sort s'avérait inévitable. Isolés du monde, ils mourraient de faim comme avaient péri des dizaines d'équipages avant eux. « Nom d'une orque, il doit bien avoir un moyen de sortir d'ici !» Et le capitaine dut scruter sans cesse les parois de leur prison. C'est à force d'observer qu'il lui vient une idée. Cette brèche là-bas, par laquelle ils étaient passés bien malgré eux, eh bien cette brèche, de gros poissons pouvaient s'y faufiler. Ou pourquoi pas une baleine géante? Après tout, il fallait bien qu'ils se reposent eux aussi. La lagune était l'endroit idéal. Avec un peu de chance et de ruse, le salut viendrait de là. Qu'est-ce qu'on risque? Pensa le capitaine. Au point où nous en sommes. Par tous les diables, que mijotait-il? Il expliqua son idée à ses hommes, puis s'adressa au cuisinier. « Dorénavant, tu déposeras les déchets des repas dans un grand filet. » Son plan était simple. S'il y avait vraiment un animal marin dans ces eaux calmes, il l'aurait en l'appâtant. Au bout d'une semaine, la nasse se fut remplie. Mais quelle odeur! Le pont empestait! « Attachez le filet à une amarre et jetez-la à la mer, mes braves !» lança le capitaine. « Cet appât est notre unique chance de survie, à la grâce de Dieu !» Croyez-moi si vous le voulez, mais le capitaine était prêt à partir. Il choisit 6 navires, dont les cales regorgeaient d'or et d'argent. Il ordonna qu'ils soient amarrés l'un à la suite de l'autre à la poupe de son vaisseau. Le marin eut raison d'espérer. Au fond de l'eau, la nasse s'était déposée devant un énorme serpent de mer assoupi. La faute odeur des déchets le réveilla. Affamé, il se jeta sur l'appât et l'avala dans une bouchée. Mais dès qu'il se vit relié à une épaisse corde, il prit peur. Dans un tourbillon d'écume, il se précipita vers la brèche pour s'enfuir. Le plan du capitaine s'accomplissait. Dans son élan, le serpent de mer entraîna les 7 navires hors de l'île. Là-haut, sur le pont, les hommes poussèrent des cris de joie. Que leur bonheur faisait plaisir à voir. Oh, le capitaine, lui, savait qu'il n'était pas encore tiré d'affaire. Il attendit d'être hors de la portée des vents de l'île, qui aurait pu les perdre à jamais, pour trancher la mare d'un coup de hache. Le serpent de mer disparut, l'équipage était sauvé. Quelques jours plus tard, les bateaux entraient dans le port de Tanger. Le capitaine les vendit un très bon prix, même le sien. Il savait mieux que quiconque que l'océan fourmille de milliers d'autres îles aux quatre vents. Le capitaine téméraire était devenu bien prudent.
Fou aussi.
Dans toutes les tempêtes, celles qui sévissent en pleine mer sont les plus redoutables, Agathe, c'est vrai. Ce sont elles qui provoquent parfois la folie des marins. L'aventure de la Belladonna va tout expliquer. C'était par une douce matinée de septembre. La Belladonna voguait vers Gênes. Le navire avait quitté Marseille au petit matin, D'ailleurs, il était bien le seul à être parti. Tous les pêcheurs du port avaient renoncé à sortir en mer au vu de la cohorte de lourds nuages noirs qui obstruaient le ciel. Le capitaine génois et son fils Valentino avaient longuement hésité avant d'embarquer. Eux aussi craignaient les terribles colères de la mer. Mais attendre le bon vouloir du ciel, c'était perdre à coup sûr leurs clients, qui devaient les attendre impatiemment là-bas à Gênes. Impossible de se le permettre, et puis sans doute le vent chasserait-il l'orage au loin. Mais il n'en fut rien. Au contraire. Le ciel noircit plus encore. Les vagues se firent énormes. Bientôt, le vent gonfla les voiles à les déchirer. « Baissez le foc ! Rabattez le perroquet !» hurlait le capitaine à l'équipage. Près de lui, Valentino tenait la barre, priant pour que le gouvernail tienne le choc. Lorsqu'un éclair illumina le ciel, faisant rouler sur la mer un grondement formidable, ce fut la panique à bord. La tempête, elle arrivait. Elle allait fondre sur le bateau comme un rapace. Les hommes de l'équipage étaient terrifiés. Il fallait trouver une solution et vite, sinon la mer allait être la plus forte. « Père !» hurla Valentino. « Regardez à bâbord, Port-Mew, nous y serons à l'abri !» Port-Mew venait d'apparaître, en effet. C'était une crique cachée dans la terre, à peine visible, dont l'ouverture était étroite et peu profonde, bordée de sombres rochers.
« Trop difficile à aborder, mon garçon !» tonna le capitaine. « Nous nous fracasserons sur les récifs !»
Mais le garçon fit pivoter son gouvernail et la belladonna cingla vers Port-Mew. C'était d'ailleurs la seule chose à faire, et le capitaine l'admit tout d'abord. Mais au fur et à mesure que le bateau s'avançait vers la passe, il fut pris d'un doute terrible, un doute qui ressemblait furieusement à la peur. « Tu vas nous écraser sur les récifs, garçon, redresse la barre !» Mais Valentino ne l'écoutait plus. Il allait passer, il fallait qu'il passe. La belladonna n'était plus qu'à quelques encablures de Port-Mew. Il tenait sa barre comme une lance, indifférent à l'affolement de son père. «
Regagne le large, Valentino, m'entends-tu »
Peine perdue. Le jeune homme n'avait Dieu que pour son bout d'espoir, là-bas, fiché entre ses deux écueils noirs. Alors il se passa une chose incroyable. Le capitaine saisit une hache et, poussant un grand cri dément, fracassa la tête de son fils. « Je suis le seul maître à bord, comprends-tu, canaille ?» À cet instant précis, le bateau, presque couché par la violence du vent, passait l'ouverture de la crique et atteignait les eaux calmes du port. Sauvés, ils étaient sauvés. La belladonna dérivait vers la terre maintenant, définitivement à l'abri. Les hommes entourèrent le capitaine, le regard lourd de reproche. L'homme était hébété. Sa crise de folie passée, il contemplait le corps de son fils, étendu sur le pont. Sans bien comprendre ce qui était arrivé, il regarda ses hommes une dernière fois. Port-Mew était tout proche. Personne ne put l'empêcher de se jeter à l'eau. Il disparut dans les flots en quelques secondes, comme une pierre. Oui, oui, les tempêtes pénètrent parfois dans la tête des hommes. Il faut le savoir quand le ciel s'obscurcit, quand le vent se met à fouetter les voiles, quand les vagues se creusent. De la mer, ses terribles compagnes, on doit s'attendre à tout.
On a commencé l'émission en faisant un lien entre le ciel, c'est-à-dire les étoiles et la mer. Eh bien, on retourne un petit peu dans le ciel en faisant cette fois le lien entre les oiseaux et la mer.
Oui, savoir interpréter justement le message des oiseaux pour les marins, c'est important aussi. Il y a des oiseaux de bon augure et puis on va constater qu'il y en a aussi de mauvaise augure. Voilà, donc la première s'appelle les trois fils noirs du soleil. Et pour situer un petit peu l'histoire, enfin la légende qui en découle, on va planter un petit peu le décor, si je puis dire, une petite explication. L'Islande est une île de 102 800 km² située près de l'océan Arctique au nord de l'Atlantique. Elle ne semble pas avoir été connue de l'Antiquité. Elle aurait été découverte au 8e siècle par des moines irlandais en quête d'îles désertes pour y mener une vie érémétique. À partir de l'an 865, elle fut exploitée et colonisée par des pionniers norvégiens qui suscitèrent un vaste mouvement d'immigration parmi l'aristocratie de leur pays. Les sources du 12e siècle, seules précises, rapportent que c'est un Suédois établi au Danemark qui fit le premier voyage en Islande. Le navigateur aurait été détourné par une tempête alors qu'il se rendait aux Hybrides. Mais, on raconte aussi, et c'est là le propos, que c'est un corbeau, fils noir du ciel, qui fit découvrir l'Islande à un viking norvégien. C'est cette phase-là qu'on va exploiter. Le soleil venait de se lever.
Sur la coque du drakkar qui fendait les flots de son allure tranquille, les vagues jetaient leur écume blanche. C'était le 12e jour du mois des semailles en cette année 864, et le bateau avait déjà navigué 3 grands jours, laissant loin derrière lui son port d'attache sur la côte norvégienne. L'équipage était au grand complet. Son chef s'appelait Ulrich et commandait 26 rameurs. Un devin les accompagnait. Ulrich était un preux guerrier, on le respectait. Mais lorsqu'il parlait des terres nouvelles là-bas à l'ouest de la mer immense, ses hommes le prenaient pour un fou. Quel viking avait jamais vogué si loin? Seul les dieux savaient ce qu'il y avait derrière l'horizon. L'équipage était passablement inquiet. De surcroît, Ulrich avait emmené sur le drakkar une cage en osier où il tenait enfermés 3 corbeaux, noirs comme la braise froide. Tout le monde regardait ses étranges compagnons d'un drôle d'œil. Mais Ulrich ne s'en souciait guère. Il voguait vers des terres nouvelles et il savait ce qu'il faisait par tort. Le vent était du voyage et la cadence allait bon train. Les rames frappaient l'eau au rythme du tambour et le drakkar filait sur l'eau. Olav, le vieux devin, rejoignit Ulrich à l'avant du navire. « Où donc nous emmènes-tu ? Tu es notre chef, Ulrich. Nous t'aimons et nous te respectons. Mais les hommes murmurent que l'esprit de la raison a quitté ton crâne. » Ulrich ne répondit pas. Il ne cessait de scruter l'horizon. « Rentrons chez nous !» continua Olav. « Ce voyage est une folie !»« Oh, mais cesse donc tes lamentations, vieillard. Tu sais que je ne fais pas demi-tour tant que nous n'aurons pas atteint les terres derrière l'horizon. » Olav soupira. Ce jeune fou était indomptable. « Prends garde à la colère des dieux, Ulrich » répéta-t-il. L'autre éclata de rire. « C'est en lui-même qui m'inspire, Olav. C'est lui qui m'a désigné les arbres les plus vigoureux pour la coque du drakkar, la laine la plus solide pour la grand voile, les rameurs les plus courageux. Nous nous jouerons du pire tempête, crois-moi. Fou ! Que ton navire résiste à tous les vents, qu'il puisse affronter les ouragans, nul n'en doute. Mais qu'arrivera-t-il si tu t'obstines à courir vers ces terres introuvables ?»« Introuvables ? » rugit Ulrich. « Mes corbeaux les trouveront. Vous verrez. Vous le verrez tous. » Olav hocha la tête. Si ces mots magiques et ces incantations n'avaient pas réussi à rapprocher du drakkar les terres de l'ouest, qu'est-ce que ces pauvres 3 corbeaux y feraient ? Il laissa Ulrich avec ses rêves insensés. Mais l'autre avait déjà ouvert la cage d'osier et saisissant l'un des oiseaux, il le lança vers le ciel en hurlant. « Rapporte-moi la promesse qu'une des terres nouvelles, fils des nuées !» L'oiseau tournoya un instant autour du drakkar, en de longs cercles hésitants, puis revint se percher sur le point de Ulrich. « À l'ouest, compagnon, à l'ouest !» cria le viking. Le lendemain, la mer était plus grise encore et le ciel plus noir. Olaf, le devin, s'était muré dans un farouche silence et l'équipage grondait. Ulrich saisit le 2e corbeau et le lança comme le premier. L'oiseau fonça vers l'ouest avant de disparaître dans le brouillard épais. « Suivez-le, homme de Norvège !» ordonne Ulrich d'une voix tranquille. Personne n'osa désobéir. Vers le milieu de la journée, le corbeau réapparut. Épuisé, il se posa sur l'épaule du viking. Celui-ci riait. Il se tourna vers le devin. « Nous sommes dans la bonne direction, Olav, crois-moi, vieux forban !» Mais le lendemain, les hommes étaient au bord de la mutinerie. Dans leurs yeux luisaient la peur et l'incompréhension. Olav s'était terré au fond de la cale. Seul Ulrich, debout à la proue, regardait la mer d'un air paisible. Il saisit le dernier corbeau et le jeta vers l'horizon. « Tu es notre dernier espoir, fils du ciel. Allez, va !» Sans l'ombre d'une hésitation, le corbeau piqua droit vers l'ouest. Bientôt, il ne fut plus qu'un point minuscule au-dessus de la mer. Ulrich se tourna vers l'équipage. « Mes amis, je vous promets de faire demi-tour si jamais ce corbeau revint sur le pont du drakkar. » Il enfla sa voix. « Mais pour l'instant, suivez-le. Ramez, ramez mes frères de Norvège. Je sais que nous touchons au but. » Galvanisés par l'enthousiasme de leur chef, les hommes appuyèrent leurs rames. On guettait le retour du corbeau, mais il ne revint pas. Ulrich comprit alors que l'oiseau avait trouvé les terres nouvelles. Pendant 2 jours, le drakkar fila au vent, et Ulrich tapait lui-même sur le tambour pour encourager ses hommes. Olav était aux côtés du viking. Enfin, vers le soir du 2nd jour, ils abordèrent une côte couverte de glace blanche. Ulrich, fou de joie, la nomma « Islande !» Ils avaient su écouter son cœur et lire le vol des corbeaux. Un oiseau vole toujours en direction de la terre ferme, même en plein océan. Et les 3 corbeaux de Norvège avaient conduit le drakkar d'Ulrich jusqu'en Islande. «
Moi qui pensais que c'était les corbeaux qui étaient des oiseaux de mauvais augure, alors apparemment, c'est plutôt les albatros.
Ça me surprend. Ben, l'albatros, le plus grand des oiseaux de mer dont l'envergure peut dépasser 3 mètres, ben, il est souvent considéré par les matelots comme un oiseau effectivement de mauvais augure. On dit que les âmes des marins naufragés s'incarnent dans le corps de ces grands oiseaux lourds, au plumage blanc et gris et au bec crochu. Gare à celui qui s'aventure à tuer un de ces oiseaux de malheur. Si vous croisez le vieux Sam Taylor sur le port de Brillington, surtout ne vous arrêtez pas. Poursuivez votre chemin. Surtout si le ciel est noir, si la mer grise roule des vagues furieuses. C'est dans ces moments-là que Sam raconte son histoire, toujours la même, d'une voix plaintive, au premier qui passe. Je le sais, je l'ai déjà entendu des dizaines de fois. Que voulez-vous ? Moi, j'aime bien le vieux Sam. Voulez-vous que je vous la raconte ? Mais elle est triste, je vous préviens. C'était il y a fort longtemps. Sam faisait partie de l'équipage du Grimsby, un trois-mâts anglais en route pour la Norvège. Le quatrième jour, il y eut une forte tempête. Le bateau résista, mais à la suite d'une brèche dans la coque, l'eau envahit les réserves. On put préserver quelques barils de hareng fumé, quelques caisses de bière, pas plus. Et le voyage était trop engagé pour que le navire fît demi-tour. On continua donc, économisant l'eau douce, la nourriture. Sam Taylor faisait comme les autres. Il scrutait l'horizon en espérant voir au plus vite la côte de Norvège. Mais que ce voyage était long, trop long pour l'estomac de Tom et sa petite tête brûlée. Un soir, alors que l'équipage mâchait la ration de hareng dans un silence de mort, il surgit comme un diable, les yeux fous, son fusil à la main. On le vit qui épaulait vers le ciel, qui tirait avec un rire de dément. L'instant d'après, un grand corps blanc tombait sur le pont au milieu des marins. Il y eut quelques cris d'effroi. Ce qui venait de choir à leurs pieds dans un nuage de plumes blanches, c'était un albatros. Un albatros ! Tom Cage venait d'abattre un albatros ! Dieu sait les histoires terribles qui couraient sur cet oiseau de malheur. Sam Taylor les avait maintes fois entendues. On disait que les âmes des marins y logeaient. Et pas celles de n'importe quel marin, non ! Celles des capitaines cruels qui avaient conduit leur bateau au naufrage, leur équipage à la mort, avant de s'engouffrer dans les eaux noires de l'océan. On disait que le cri des albatros était la plainte des noyés, qu'ils annonçaient les typhons et les rats de marée. Tout le monde le regarda terrorisé. Mais Tom Cash se mit à rire. « Mon d'un artimon, voilà qui va améliorer l'ordinaire, pas vrai ?» Oh, la tentation fut trop forte. Malgré les protestations de la plupart d'entre eux, quelques marins coururent chercher leurs fusils. Un instant plus tard, 5 autres albatros gisaient sur le pont. Tom Cash, qui était aussi cuistot, les prépara sur le champ. Et tous s'empiffrèrent, les tueurs comme les autres, tous, même Sam Taylor. Pendant un moment, ils oublièrent leur peur et ces maudits harengs. La chair des oiseaux était si bonne. Tom Cash ricanait. Ah, « J'ai pas eu raison, les gars hein !» Ce fut dans la nuit que les choses se gâtèrent. D'abord la tempête, une tempête venue de l'enfer, qui soulevait des vagues gigantesques, faisait tanguer le trois-mâts comme un bouchon déchirait les voiles. « Un homme à la mer !» Une lame avait emporté Tom Cash. On le voyait encore, à 100 pieds du navire, soulevé par l'écume grise. « Tiens bon, Tom !» Tom hurla le capitaine. Malgré la danse effrénée des vagues, on mit une chaloupe à la mer, avec 5 hommes dedans qui ramenèrent Tom. Mais sur le pont, tout le monde suivait la manœuvre. Un instant, on crut qu'ils allaient réussir, qu'ils ramèneraient effectivement l'homme. Et puis plus rien. Un creux les avala et l'embarcation disparut au milieu des flots. Longtemps, les hommes hébétés scrutèrent la sombre nuit. En vain, la mer avait repris 6 vies, les vies des 6 albatros abattus par les marins du Grimsby. Voilà. Vous comprenez pourquoi le vieux Sam Taylor erre sans fin aujourd'hui sur le quai de Burlington, pourquoi il raconte toujours la même histoire et pourquoi dans ses yeux, il y a toujours la couleur de la mort.
Dominique, je crois que pour les semaines à venir, tu as eu une très très bonne idée. Est-ce que tu peux nous en faire part ? Alors je sais qu'il va s'agir de se plonger à nouveau dans l'Égypte ancienne.
Oui, tout à fait. Pour innover un petit peu, on va faire ça sous forme tant que le chronomètre nous le permettra chaque émission, parce que c'est vrai qu'il est difficile de trouver des comptes qui... On a un temps imparti. Donc, le plus souvent possible, j'aimerais, comme un fil conducteur, raconter au fil des émissions l'éducation de... Comment s'est faite l'éducation de Ptolémée, le fils de Cléopâtre, par un scribe. Donc, effectivement... Comme je le dis, on va suivre au fil des émissions l'apprentissage à la vie d'homme sage du jeune Ptolémée Césarion âgé au début de nos récits, de 13 ans. Il vogue en compagnie de sa mère, la reine Cléopâtre, sur le plus majestueux des fleuves, le Nil. Elle veut lui faire découvrir son pays, l'Égypte, lui apprendre à le comprendre et à l'aimer. Pour l'aider à l'éducation de Ptolémée Césarion, elle confie alors à son fidèle scribe le rôle de précepteur, qui pour ce faire lui racontera chaque jour un épisode glorieux de leur histoire, l'histoire de ses pères, les contes et légendes ou les hauts faits des pharaons qui se sont succédés jusqu'à la réunion de la Haute et la Basse Égypte. Et ça, ça sera raconté au fil de différentes histoires qui auront un temps différent. On va essayer de respecter une certaine chronologie. C'est pour ça que je dis bien, suivant le temps qu'on aura, ma foi, on racontera une ou deux histoires, ou peut-être malheureusement pas, mais on va essayer quand même. J'aimerais bien fidéliser justement avec cette histoire, une certaine cohérence chaque fois dans le programme, par un fil conducteur, on va dire, voilà, de notre émission.
En plus, il y a un but éducatif là-dedans, bien sûr, puisque j'imagine qu'on va apprendre pas mal de choses.
Après, je ne garantis pas la véracité de... Voilà. Mais c'est une jolie façon... Et à chaque fois, il y a une belle moralité, quoi. Évidemment, le but du jeu pour l'éducation de chaque enfant, même à cette époque-là, c'était quand même la notion de valeur et comment on peut acquérir le courage en évoquant certaines situations. Donc, j'en ai lu quelques-unes. Ça m'a bien plu. J'espère faire partager, justement, cet amour-là... de cette écriture, de ces histoires à nos auditeurs. Ça va changer un petit peu.
Bon, ben, on a hâte, Dominique. On se donne rendez-vous dans 15 jours.
Oui.
Et en attendant, je te remercie encore une fois pour cette très belle émission.
Merci à vous. Merci encore aux auditeurs de leur fidélité. À plus.